Voilà, je vois que vous accueillez bien. Mon idée est de faire commencer chaque message par un extrait d'une ouverture d'un ballet, d'un opéra. C'est juste génial. Enfin, vous avez vu la dynamique que ça met. Voilà, bon, trêve de plaisanterie. Il y aura dans ce que je vais vous partager des moments musicaux pour vous permettre, comme Jonathan l'a évoqué, de faire votre part dans ce que je vais vous partager. Pour accueillir, pour répondre aux interpellations que je vais vous donner. Alors, je vous partage un message sur le thème de la prière. C'est un message qui s'imposait dans ce dimanche où on fait équipe avec TODA, la maison de prière avec laquelle on a un partenariat. Alors, j'ai dans le moment d'écoute par rapport à ce sujet, j'ai fait le choix de m'arrêter. Auprès de Jésus, qu'on vient de célébrer, qu'on vient d'honorer, de reconnaître, et de regarder quelle a été sa pratique et quels ont été ses enseignements en matière de prière. J'ai relu les quatre évangiles en étant attentif à ça. Alors, ça couvre pas du tout le sujet de la prière, parce qu'il y a des enseignements sur la prière qui sont donnés ailleurs dans la Bible, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Ce que je vous partage aujourd'hui, c'est quelque chose de limité, mais c'est quelque chose que Jésus a vécu, c'est quelque chose que Jésus nous a dit sur le thème de la prière. Alors voilà le thème de mon message. Comme je suis quelqu'un de structuré et de visuel, j'ai préparé ma présentation en trois parties. Il y a la partie sur la pratique de Jésus, une autre partie sur les mises en garde de Jésus. Eh oui, Jésus a donné aux personnes qui côtoyaient des mises en garde en matière de prière. Et puis, il a aussi donné des conseils. Tac, les conseils. Et dans les conseils, il y en a qui sont très généraux, il y en a qui sont spécifiquement orientés pour la période de la fin des temps. Et il y a ce merveilleux conseil qu'est le Notre Père. Je terminerai avec ça. Donc, voilà le menu, voilà ce dans quoi je vous invite aujourd'hui, et un petit morceau de musique pour vous aider à vous préparer à accueillir ce que je vais vous partager. La pratique de Jésus, j'en viens à ce domaine-là. Alors, dans l'évangile de Jean, si vous commencez à lire l'évangile de Jean pour essayer de voir quelle a été la pratique de Jésus, il n'y a pas beaucoup d'informations. Ça m'a frappé. Il y a d'autres évangiles, je vous en parlerai, qui sont plus riches de ce côté-là. Dans l'évangile de Jean, il y a deux moments où Jésus prie. Ces deux moments très forts où il est en combat avec les puissances de la mort et de la vie, dans un combat fort. Premier moment, c'est quand il y a la résurrection de Lazare. Il prie vraiment là, à ce moment-là, pour que l'esprit de vie reprenne le dessus sur l'esprit de mort. Premier point. Et l'autre moment où Jésus prie, c'est un moment magnifique, c'est Jean 17, c'est cette prière sacerdotale où il prie pour lui, il prie pour ses disciples. Puis prie pour tous ceux qui croiront en lui. Priez pour nous à ce moment-là, juste avant qu'il se fasse arrêter puis qu'il vive ce qu'il a vécu sur la croix. Donc deux moments forts qui donnent déjà une indication importante, à savoir que la prière, c'est une arme puissante contre les puissances des ténèbres. Et là, il y a des gros enjeux. Alors, Voilà l'enseignement que j'ai retiré en lisant l'évangile de Jean. C'en est un, mais je m'attendais à quelque chose de plus riche. Alors j'ai trouvé des autres choses dans les autres évangiles, où souvent il nous a dit « Jésus se met à l'écart pour prier ». On retrouve ça un peu partout. On ne nous dit jamais ce qu'il a vécu dans les temps de prière, mais cette mise à l'écart de Jésus pour prier, bien, elle ressort. Ça, c'était la pratique de Jésus. Puis ensuite, dans les exemples qui sont donnés quand Jésus prie, eh bien, comment est-ce qu'il faut dire, Jésus était très multimode. Hein. Il a eu des prières de louange. Ça, c'est Matthieu 11. Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc, c'est Jésus, Fils de Dieu, qui loue Père céleste. Il a eu des prières de reconnaissance et de bénédiction avant les repas, notamment quand il a institué la scène. Il respectait cette tradition juive qui était de bénir et d'être dans la reconnaissance avant de partager le repas. Et puis il a cette belle prière aussi sur la croix où il intercède en invoquant le pardon sur les personnes qu'il voit. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est tellement puissant. Quand on met ça en évidence, ça m'a frappé de voir Jésus dans cette diversité de prières. Alors j'ai été frappé en lisant ces textes, en essayant d'identifier la pratique de Jésus par quatre points. Jésus, il est d'une simplicité incroyable. Le nombre de miracles et de guérisons qu'il a fait, il y a beaucoup plus d'exemples de miracles et de guérisons dans la Bible que d'exemples de prières de Jésus. Nombre de fois où il a guéri, où il a fait des miracles, ben, il n'y a jamais un moment de prière avant. Son autorité, sa connexion au Père était suffisante pour vivre ça d'une façon naturelle et simple. Ça m'a frappé. L'autre point qui m'a frappé, il n'est jamais question de durée ou de temps de prière. Hein, le chronos, qui est tellement important pour nous, là, le timing, la durée, rien du tout. C'est notre connexion à Dieu qui est importante. C'est notre persévérance qui est importante. La durée, c'est pas un critère. Moi, je ne l'ai pas relevé. Troisième point, ça m'a fait sourire, mais Jésus, il n'a jamais prié en groupe. Il n'y a jamais un exemple où il y a eu une réunion de prière animée par Jésus. Il aurait pu être un bon animateur de prière. Il n'y a pas ça. Il a encouragé à la prière personnelle, à cette relation avec le Père Céleste. Oui, ça, il l'a encouragé. Les choses sont venues après. Alors, je le dis, hein, je me centre sur les évangiles. Après, dans le livre des Actes et dans le Nouveau Testament, il y a l'Église qui se met en route et qui a ce besoin de prière communautaire. Mais Jésus, ben ouais, il n'a jamais animé une réunion de prière. Puis le quatrième point qui m'a frappé, ben, c'est de voir à quel point Jésus était cohérent entre le Notre Père qu'il a donné comme exemple et puis qui il a été. Il y a ça colle, quoi. On le verra à la fin. Le Notre Père, il l'a vécu, il l'a été. Il a été dans toutes ces dimensions-là qu'il a résumées dans ce Notre Père. Donc cette cohérence entre comme je suis et comme je prie. Voilà les quelques éléments qui m'ont frappé par rapport à la pratique de Jésus. Je vous offre ce slide et un petit moment musical pour vous aider à intégrer ces éléments. Thank you. j'en arrive au deuxième point de ce que j'ai envie de vous partager, c'est sur les mises en garde. Jésus a mis en garde ses interlocuteurs à plusieurs reprises par rapport à la prière. Alors ça me semblait intéressant d'en parler, parce que je sais pas, j'ai entendu peu de messages qui s'arrêtaient sur ces conseils quelque part, qui nous rappellent quand même des bonnes pratiques, puis qui nous aident à rester bien équilibrés. Alors, la première mise en garde que Jésus a donnée sur le thème de la prière, c'est attention à notre désir d'être marqué. Je vous montre Matthieu 6, verset 5. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Sommes-nous à l'abri d'une telle remarque? Sommes-nous réellement pas concernés par ça? Moi, je crois qu'on a quelque part ce danger en chacun d'entre nous. Donc, je vous invite juste à y veiller. Je nous invite à y veiller pour que nous ne soyons pas traités d'hypocrites. Autre mise en garde, c'est sur la longueur des prières. Dans vos prières, Matthieu 6, ne rabâchez pas tant de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. J'ai trouvé percutant et merveilleux. Merveilleux de savoir qu'on a un Père céleste qui connaît nos besoins avant qu'on les lui demande. Donc, est-ce que nos prières sont faites en ayant conscience de ça? Ce ne sont pas nos paroles qui vont permettre au Père de connaître nos besoins. Il va accueillir notre persévérance, on le verra plus tard. Il y a de la place pour insister, pour être persévérant. Mais ce ne sont pas nos paroles alignées les unes après les autres qui vont peser dans le cœur de Dieu. C'est Jésus qui nous le dit. Troisième mise en garde, c'est le danger d'avoir des prières qui sont centrées sur nous. Luc 18, verset 11, c'est le pharisien qui, debout, faisait cette prière. « Ô Jésus, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes. » Et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas, moi je, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Une prière centrée sur soi, qui n'est pas centrée sur Dieu. Là aussi, une mise en garde de Jésus dans nos prières. Alors, je pense que c'est des choses qui nous concernent tous. Donc, je vous invite à les accueillir. Et j'aimerais ajouter un autre élément dans ces mises en garde, parce qu'elle fait lien avec un autre verset qui m'a frappé, que je vais vous partager aussi en lien avec la prière. Il se trouve que la prière, c'est un appel pour tous, on est invité à prier. Mais c'est aussi un don. C'est un don qui est donné à certaines personnes, donc une capacité, une sensibilité particulière que le Saint-Esprit donne et qui est à utiliser pour l'édification de l'Église. Et on le sait, d'une façon générale, quand on reçoit un don, ça nous donne une sensibilité, puis cette tendance à espérer que les autres seront comme nous, réagissent comme nous, ont la même sensibilité que nous. On appelle ça le risque de projection. On projette notre don sur les autres. On se dit, mais attends, pourquoi il n'est pas comme ça? Ah ben ouais, moi j'ai reçu un don, puis lui pas. Ah bon, ok, on est complémentaires, on est différents. Hein? Et dans Luc 11, 46, Jésus dit: oui, malheur à vous, enseignants de la loi, vous imposez aux gens des fardeaux accablants. Et quand on a reçu un don et qu'on le projette sur les autres, on impose un fardeau lourd sur les autres personnes, parce qu'on leur fait penser qu'ils ne sont pas assez, ils ne sont pas suffisants, ils devraient être différents, etc. Donc prenons ça aussi pour nous, et je vous le dis aujourd'hui dans le domaine de la prière, mais c'est vraiment valable pour tous les dons qu'on reçoit. Donc, si, que nous avons reçu un don, si nous avons reçu le don de prière, merci Seigneur de distribuer ces dons. Merci de donner ces dons de prière à des personnes. Eh bien, que ces personnes qui ont reçu un don ne culpabilisent pas les autres parce qu'ils ne l'ont pas. Et puis que les personnes qui n'ont pas ce don ne se réfèrent pas aux personnes qui l'ont, ne se culpabilisent pas, ne se dévalorisent pas, ne se réfèrent pas aux autres en se disant « mais moi je suis rien et l'autre est meilleur ». Là, on tombe dans un piège qui est grand comme ça. D'accord ? Donc, je pense que ces mises en garde de Jésus, ben, moi j'ai trouvé qu'elles nous rejoignaient dans ce que nous vivions. Elles sont d'une actualité fabuleuse, elles touchent qui nous fonctionne en tant que personne. Donc, je vous offre ce résumé-là et un peu de musique pour les intégrer. Alors, est-ce que la musique va venir ? On va la trouver. Voilà, on poursuit avec les conseils généraux de Jésus. Il était aussi très direct dans des conseils qu'il nous a donnés. J'en ai relevé trois. Il y a ce conseil de la prière personnelle qui est en phase avec qui il a été lui aussi quand il s'est retiré. Ben, il nous dit la même chose. « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Hein, » c'est cette invitation à nous isoler de l'agitation du monde, de nous mettre à part dans une relation de qualité où il n'y a pas d'interférence. Va dans ta pièce la plus retirée. Premier conseil. Le deuxième conseil, c'est d'être en règle les uns avec les autres. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père Céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. L'importance de se pardonner les uns aux autres, Marc 11, 25. Ailleurs, Jésus dit aussi autre chose, il le dit en lien avec l'offrande, mais je pense que ce n'est pas une hérésie de se dire, tiens, dans le domaine de la prière, c'est probablement la même chose. Matthieu 5, 24, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et quand je lisais ça, je me suis dit, ouais, moi j'ai l'impression, j'ai la conviction que nous pourrions avancer à titre personnel, à titre collectif, de façon bien plus solide, mature et durable, si nous appliquions ce conseil à la lettre. Est-ce qu'on ne traîne pas avec nous des situations où un pardon pourrait être donné, où des réconciliations pourraient être vécues. Moi, je crois que ça ouvre des portes fabuleuses à un parcours de chrétien ou d'église. Donc voilà, un des conseils de Jésus. Le troisième conseil de Jésus, c'est la persévérance. Hein. Luc 18, verset 1, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Je vous la lis pas en entier, c'est celle de la veuve persévérante et du juge unique. C'est ce juge qui écoute pas la veuve qui vient, qui lui répète ses demandes, puis qui, à force d'insistance, cède, puis dit, ouais, bon, j'aurai la paix, je vais lui donner ce qu'elle est d'accord, ce qu'elle me demande. Et Jésus d'ajouter à la fin, mais raison de plus, à plus forte raison, vous avez vu ce que ce juge unique a fait, mais votre Père qui vous aime, bien, il défendra aussi le droit de ceux qui crient à lui jour et nuit. Donc on a là c'est cette complexité de la parole, à la fois Dieu sait déjà, connaît notre besoin, mais il y a cette ouverture pour être insistant et persévérant auprès de lui. Alors, je vais vous donner un témoignage personnel en lien avec cette situation-là. C'est un témoignage qui date d'une quarantaine d'années, mais qui a marqué mon parcours de chrétien, qui le marque encore maintenant. Nous étions jeunes mariés, Doris et moi, et avons fait un voyage en Grèce, en voiture. On est descendu toute l'Italie, on a pris le bac à Brindisi, puis on était à Patras, dans le Péloponnèse. Quelques heures de bateau, mais quelques vaguelettes quand même suffisamment grandes pour donner l'envie à Doris, enfin, ou plus donner l'envie à Doris de remonter, de revenir par le même chemin, surtout que le chemin de retour, il était beaucoup plus long sur le bateau. On prenait le bateau à Patras, puis on montait toute l'Italie, tout l'Adriatique jusqu'à Ancône. Il y avait deux nuits et puis une journée pleine sur le bateau. Donc, Doris est rentrée en avion depuis Athènes. Et moi, j'ai pris mon élan pour rentrer seul en voiture depuis Athènes, le Péloponnèse, Patras, puis j'ai embarqué sur le bateau en fin d'après-midi. Première nuit calme, journée fabuleuse sur l'Adriatique, temps calme, super. Deuxième nuit, j'ai jamais eu une tempête comme ça. Il y a eu un coup de vent qui est venu de la côte yougoslave et le bateau bougeait dans tous les sens. C'était l'horreur. J'étais seul dans ma cabine à vomir dans le lavabo. Je suis sorti sur le pont pour prendre un peu de l'air. J'ai croisé avec des gens qui étaient blancs comme moi. Et le petit déjeuner, c'était des biscottes et du thé noir. C'était l'horreur. Et ensuite, j'avais 800 km à me taper entre Ancône et Lausanne pour rentrer seul. Donc, une expérience particulière. Et là, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi parce que je ne suis pas en super forme et tout. Enfin, bon, voilà. Et j'ai invité Jésus sur le siège du passager que Doris avait laissé libre. Et j'ai vécu un moment fort dans ces 800 kilomètres de dialogue avec ce Jésus que j'avais invité. Et c'était quelque chose de fabuleux de réaliser cette proximité, cette possibilité d'échanger, d'avoir une personne de confiance, aimante, qui nous donne un cadre respectueux de confiance où on peut être authentique et dans lequel on peut tout se dire, on peut tout recevoir. Et pour moi, ça c'est, je vous le dis ici parce que pour moi, c'est le cadre qui est nécessaire pour cet échange constant, cette prière constante. Et moi, je me lève en remerciant le Seigneur de cette journée. Je dialogue, je continue ce dialogue dont j'ai réalisé la possibilité dans ce moment-là, tous les jours. Et c'est dans ce cadre-là que je mets ma prière constante. Je ne la mets pas dans des moments que je mets à l'agenda avec une certaine durée. J'essaie de le vivre dans cette simplicité d'une journée qui nous est offerte et de marcher avec ce Jésus que j'ai envie de suivre. Et je pense que c'est dans, je vous le dis parce que je pense qu'il faut qu'on mette les choses dans le bon ordre par rapport à cette invitation-là. C'est dans un cadre d'une communion, d'une proximité, d'une relation de qualité qu'on peut vivre se prier constamment. Et puis pas l'inverse. C'est pas en priant constamment qu'on va trouver cette communion et cette relation. Vous voyez ce que je veux dire ? Mettre les choses dans le bon ordre. Je crois que ça facilite largement cette invitation de Jésus à être dans cette prière constante sans jamais se décourager. Voilà, petit résumé. et musique. Continue dans les conseils de Jésus et puis maintenant on regarde ceux qui sont spécifiquement liés à la fin des temps. Dans trois évangiles, il relate les conseils, enfin l'évocation de la fin des temps est donnée dans Matthieu, Marc et Luc. Et à chaque fois, eh bien, il y a ce conseil, c'est là qu'il y a se veiller et prier pour ne pas entrer en tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Et il y a ces deux mots, hein, se veiller et prier. C'est deux choses différentes. Les deux sont visiblement importantes, hein, cette posture d'écoute dans la veille, d'être attentif, et le prier où on est actif, où on parle, où on s'exprime. Ça permet de ne pas entrer en tentation. Hein. Ça permet plus que de vaincre la tentation, c'est avancer au-delà. On n'entre pas en tentation quand on est dans une posture de veille et de prière. Tiens, intéressant. On retrouve ça d'ailleurs dans Notre Père, hein, on le verra. Et puis, ça nous rappelle aussi que c'est important parce qu'on est faible, parce qu'on est humain, parce qu'on a des limites. Et on se souvient, hein, il y a la parabole des 10 vierges avec les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Il y a les disciples qui accompagnent Jésus dans le jardin de Gethsémané. Ils s'endorment. C'est notre nature humaine qui est faible, qui est limitée. Et Jésus nous donne ce conseil. Dans ce temps-là, veillez et priez. Et dans cette période, dans ces textes où il évoque la fin des temps, il évoque aussi en particulier le jour du jugement. Ce jour s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Il dit aussi car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde et plus jamais on ne verra pareille souffrance. Ben oui, on va visiblement au-devant de moments difficiles. Et là, il n'y a pas d'illusion à se faire. En lien avec ça, Jésus, ben, il nous invite déjà maintenant à prier justement d'une façon particulière. Et là, j'ai trouvé, j'étais étonné, c'était une surprise de re-réaliser ça. Mais Jésus nous dit, priez pour que ça n'arrive pas en hiver. C'est drôle, hein? Donc, on a quelque part une influence sur le moment où ça va se passer. Pourquoi il dit ça? Parce qu'avant, il dit, ben, lors du jour du jugement, mieux vaudra fuir plutôt que de retourner chez soi, parce que ça va être terrible. Et quand vous allez devoir fuir, en hiver, quand il fait froid, ça va être encore plus dur. Priez pour que ça n'arrive pas en hiver. Jésus qui nous dit ça. Ben ouais. On est des acteurs aussi dans cette période de la fin des temps. Il nous dit aussi autre chose. prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas trop à force de trop bien manger, de trop boire ou de vous tracasser pour des choses de la vie. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup. Restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Hein, cette invitation, cette mise en garde par rapport au bien manger, au bien boire et aux soucis que nous portons. Ouais. Une hygiène de vie saine que Jésus nous invite à avoir dans ces temps pour ne pas se laisser surprendre et puis pour ne pas tomber. Voilà, ça peut nous aider. Il rajoute, restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force. Ouais, Dieu peut nous donner la force de tenir bon. Il faut juste aller la lui demander. Et Jésus, il ajoute, tenez-vous en éveil car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. Eh bien, c'est entre autres dans ce cadre, dans cette invitation à veiller et prier sans relâche, que le mouvement des maisons de prière a pris naissance dans le monde entier, avec comme vision de restaurer la présence de Dieu jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme au temps du tabernacle de David. Et parmi ces maisons de prière, on a Toda, avec laquelle on est en partenariat. Et sur le site internet de Toda, je lis comme vision, leur vision, c'est de travailler à établir un lieu d'adoration continuel pour le Dieu de Jésus-Christ et à l'avènement de son règne dans la région du pied du Jura. Ça, c'est leur vision. La vision de l'église évangélique de Cossonay est là, une région de Cossonay connectée au Christ pour la gloire de Dieu. Ces deux visions, à mon avis, très complémentaires, qui vont très bien ensemble, qui sont parfaitement convergentes. On a deux structures, Toda et l'église évangélique de Cossonay, qui sont totalement différentes, puis c'est bien logique. Ces deux structures n'ont pas encore, à mon avis, exploiter tout le potentiel de partenariat qui existe entre elles. Quelle chance, les amis, d'avoir parmi les membres de notre Église des personnes qui sont sensibles à cette dimension-là. On est en plein dans ce à quoi Jésus nous sensibilise pour la fin des temps. Cette invitation de prier sans relâche, d'être dans cette louange, dans l'adoration, dans l'intercession dans les temps que nous sommes en train de vivre. Et moi, je me réjouis de ce qui est devant nous concernant ce partenariat. On chemine, il y a déjà eu plusieurs étapes de cheminement avec nos amis de Toda, et moi je suis sûr que ces prochaines années, c'est quelque chose qui va se développer pour nous aider à répondre tout simplement à cette difficile invitation à nous tenir éveillés dans les temps que nous sommes en train de vivre. Je vous offre ce résumé et de la musique. Il y avait une troisième raison qui m'a fait vous passer des morceaux de musique. C'était pour vous sensibiliser à la diversité de la musique. Je vous ai passé de la musique classique, du jazz, du rock, de l'opéra. Enfin, on a entendu des solos, on a entendu des gens qui étaient ensemble. Enfin, des instruments, hein, piano, flûte, guitare, violoncelle, percussion. Enfin, une palette large. Juste pour faire le parallèle avec cette diversité de prières aussi qui existe. Des prières de louange, de reconnaissance, de bénédiction, d'intercession, de repentance, de pardon. La palette est large. Et pour certains, c'est même un don qui leur donne une sensibilité particulière dans ce domaine qui est utile à l'édification de l'Église. Alors, j'ai envie de dire, comme en musique, où il y a une grande diversité de genres et d'instruments, soyons en matière de prière ouverts à la diversité de genres, de pratiques et de sensibilités. Je crois qu'on pourrait facilement imaginer un dialogue sur le plan musical. Quelqu'un qui nous invite à faire la musique. Oui, mais avec quel instrument? La palette est large. Et la réponse est peu importe. L'important, c'est d'en faire. Je fais le parallèle avec la prière. Allez, prie. Cette invitation de Jésus à prier. Oui, mais comment? Peu importe. L'important, c'est de prier. D'être actif dans une prière qui résonne, qui correspond à qui vous êtes, qui résonne dans votre cœur. Puis on pourrait même rajouter une réponse supplémentaire là qui dit ouais, tu pourrais t'inspirer du Notre Père. Puis ça m'amène forcément à la dernière partie de ma présentation au Notre Père, l'équipe louange, vous pouvez gentiment venir sur scène. Ce magnifique conseil de Jésus, qu'est le Notre Père. Une prière qui contient tellement de choses en peu de mots. Il y a de l'adoration, il y a de la louange, il y a de la reconnaissance. Il y a le rappel de notre dépendance à lui, l'importance du besoin de pardonner et d'être pardonné. Il y a la réalité de notre fragilité. Jésus nous donne ça en exemple après nous avoir dit, mais ne rabâchez pas tant de paroles. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Voilà le conseil qu'il nous donne. C'est cette prière du Notre Père. Donc, je fais le choix de ne pas rajouter quoi que ce soit à ce modèle magnifique que Jésus nous donne, mais de nous inviter à dire ce Notre Père en chantant un chant du Djem, le 1006, qui nous invite à dire ensemble cette prière en chantant. Je vous invite à la dire comme étant une réponse à l'invitation, au conseil que nous donne Jésus. Avec ces paroles-là, tu as une posture juste. Tu es dans un domaine qui est adéquat, qui t'aide à être dans une relation de qualité avec moi. Je vous pose juste une question pour terminer mon intervention. C'est est-ce que nos prières sont toujours notre Père compatible? Ça pourrait être un filtre intéressant que de se dire est-ce que mon attitude de prière, elle correspond aux éléments qui sont donnés là pour qu'elle résonne d'une façon agréable auprès du Dieu que nous voulons célébrer. Voilà, donc je vous invite à accompagner l'équipe qui va nous... c'est le chant 1006, hein, sur ce magnifique chant sur Notre Père.